Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au menu de cette nouvelle hebdo de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Et plus, c'est Affinité, couronné 4 fois au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier. Le film sort mercredi sur vos écrans. Les deux réalisateurs de Jumeaux mais pas trop reviennent donc avec ce deuxième film. Olivier Ducret et Wilfried Méhance nous rejoignent dans un instant. Ils seront également accompagnés de Bernard Campan, de Pablo Poli et Julia Faure, également qui viendront nous parler de leur rôle, bien évidemment. Et dans nos coups de cœur télé cette semaine, nous parlerons de Face à Face qui fait son grand retour demain soir sur France 3 avec Claire Borotra qui sera notre invitée. Yael Troulès également viendra nous parler de OPJ avec un nouveau prime time événement. Ça sera donc jeudi soir sur France 3 également. Et puis on aura également le plaisir de recevoir Jérémy Charvet aujourd'hui qui a fait son arrivée en janvier dernier dans Plus belle la vie. Encore plus belle, son personnage va être au cœur de cette intrigue du mois d'avril. Et en exclu podcast, cette semaine, nous allons parler de Homejacking, la nouvelle série signée OCS Pulp, qui démarre dimanche soir. À cette occasion, Hervé Admar, le réalisateur, sera avec nous accompagné de Yannick Choira et de Marie Dompnier pour en parler. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est pas un poisson, hein, je vous le dis. Même si pour ce 1er avril, on a le grand bonheur de recevoir quasiment toute l'équipe de Et plus et Affinité. Eh bien, ils sont là, après Jumeaux mais pas trop, qu'on a défendu bec et ongle à leur côté. Wilfried Méhance et Olivier Ducret sont de retour. Non, chut, on écoute la télé 2 ans après. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour l'équipe.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça fait merci. Merci. Mais ouais, ça me fait plaisir de vous avoir aussi parce qu'on était là pour le court-métrage. On a été là pour votre premier long qui a été tourné en Charente. On est là pour ce deuxième et je sais que le deuxième, souvent, c'est un virage qu'il faut ne pas rater non plus. Et on a tellement ri quand on l'a vu. On a eu la chance de le voir à l'Alpe d'Huez avant tout le monde. Et franchement, mais on rigole, on a entendu à ça le rire. Et ça fait du bien, c'est ce qu'on a besoin. En ce moment, Pablo Poli, Julia Faure, Bernard Campan vont tous nous rejoindre aussi d'ici quelques instants. Mais d'abord, les garçons, vous allez nous dire un peu comment est né, en tout cas, ce projet. Et comment vous avez fait pour enchaîner un deuxième film aussi vite après Jumeaux.
Alors en fait, alors qu'on était en post-production de Jumeaux, les producteurs de ce film, donc de Et plus si Affinité, Romain Brémond et Daniel Prejlocage, sont venus nous voir avec ce projet parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, c'est un remake d'un film espagnol qui s'appelle Sentimental, dont ils avaient acheté donc les droits. Ils voulaient faire l'adaptation en France. Ils connaissaient notre travail et ils nous ont dit, on pense que vous êtes les bonnes personnes pour adapter ce film. Donc on a vu le film original et on s'est dit, il y a plein de choses qui nous intéressent. Il y a aussi plein de choses qu'on veut modifier. On leur a proposé, on leur a fait une sorte de traitement, c'est ce qu'on fait avec les endroits qu'on voulait modifier par rapport au film au original, et ils ont trouvé ça super, ils nous ont suivi, et c'est comme ça en fait qu'on a enchaîné ce deuxième film, c'est-à-dire que en fait l'écriture de ce film a commencé avant que Jumeaux sorte en salle.
On s'est remis en scène avec Jean-Paul Battelli, notre co-scénariste qu'on salue et qu'on adore, et on s'est remis en scène sur un remake, ce qui fait qu'on a une partition qui est en partie déjà là, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et tout s'est enchaîné très vite ensuite. C'est un huis clos, c'est un film qui se tourne en très peu de temps. On a tourné en 21 jours. Et au final, c'est vrai que du coup, on se retrouve à l'Alpe 2 ans après Jumeaux mais pas trop. Ce qui est fou, on l'aurait jamais imaginé. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de chance.
Et puis un casting vraiment 4 étoiles avec 4 acteurs incroyables. On est dans une sorte un peu de huis clos hein, quand même, dans un appartement où il y a très peu de comédiens extérieurs, à part la voisine du palier quand même, qui a un rôle, vous allez voir, très important, Madame Moulet.
Flores Cardo qui a 88 ans, extraordinaire.
Ouais. Ah ouais, non mais c'est assez dingue. Et il y a quelque chose de très théâtral. Parce que c'est vraiment un film qu'on pourrait voir se poursuivre sur scène au théâtre dans les mois qui viennent en France en tout cas.
Alors il a commencé même au théâtre parce que avant d'être un film en Espagne, c'était une pièce de théâtre en Espagne qui avait marché. C'est pour ça qu'ils en avaient fait l'adaptation au cinéma. Et en France, c'est pas nous pour le coup, mais il y a des gens qui préparent l'adaptation aussi au théâtre.
Il va de revenir. Ce film est passé. Enfin, cette pièce est devenue film et ce film va redevenir pièce. Ce qui est beau.
Exactement. C'est génial, la boucle sera bouclée. Alors on va y suivre l'histoire d'une vie commune qui est formée par Xavier et Sophie, incarnée par Bernard Campan et Isabelle Carré, une comédienne incroyable que moi j'adore, et un couple qui est un peu voilà au bout du rouleau et qui c'est Sophie qui va inviter ses voisins de palier un peu bruyants, ses voisins du dessus, oui, puisque c'est Madame Moulot la voisine de palier, et Xavier est pas très très content et va le faire sentir à ses voisins et ça va partir en sucette cacahuète totale l'histoire.
Exactement. C'est exactement comme ça qu'il faut pitcher le film. Faut pas trop dire en fait ce qui va se passer après parce que je pense que c'est tellement jouissif pour le spectateur de le découvrir. Le seul truc qu'on peut dire c'est que ses voisins sont très bruyants parce que c'est un couple beaucoup plus jeune, très amoureux. Voilà, et ça s'entend et qui fait beaucoup l'amour, beaucoup trop l'amour.
Le personnage joué par Bernard Campan, Xavier est pas du tout content que sa femme ait invité ses voisins. Il a aucune envie et notamment pour cette raison, il a aucune envie de dîner avec eux. Et du coup, il a dit très bien, tu les invites. Du coup, on va aborder ce sujet. Moi, je vais leur dire que j'en ai marre de les entendre. Voilà. Et elle dit non, surtout ne fais pas ça. Et tout le long, la menace plane en fait. Lui menace à tout moment de le dire. Et évidemment, à partir de là, la cocotte minute se met en place. Et c'est avec ce quatuor de comédiens. Même nous, hein, on était au spectacle.
Ouais, lui, il est prof de musique. Voilà, c'est pareil un peu. Voilà, promener son chien. Et voilà. Un peu paumé.
Un peu aigri parce que en fait il avait une carrière de compositeur de musique avant, on sent qu'il aurait aimé continuer dans cette voilà, et la vie a fait que il est devenu prof de musique et il a une sorte d'aigreur, de spleen qui traîne, et c'est ça aussi qui crée cette usure de couple avec Sophie, le personnage que j'ai par Isabelle, parce qu'elle reconnaît pas le mari qu'elle a, enfin l'homme qu'elle a connu plus jeune, ce qui est le cas de beaucoup de couples. Voilà.
On va évoquer évidemment hein, ces personnages, on va en parler puisque Bernard, Julia et Pablo vont nous rejoindre, mais du coup on va parler un peu plus de celui de Sophie avec vous puisque Isabelle n'est pas là aujourd'hui, elle est au théâtre. C'est une comédienne très demandée aujourd'hui, on comprend pourquoi quand vous allez voir le film encore une fois, mais c'est vrai que depuis Les Émotifs Anonymes, Isabelle nous a montré tellement de palettes différentes de son talent, que ça soit du drame, de la comédie, elle est pointue dans tout quoi.
Puis c'est un Stradivarius, Isabelle, elle peut passer vraiment du rire aux larmes
elle peut rougir, tout à coup elle rougit.
Et elle vit vraiment les choses de manière intense. Et c'est vrai que pour des jeunes metteurs en scène comme nous, travailler avec des gens qui ont autant d'expérience, qui sont aussi forts et qui sont aussi humbles dans leur travail,
aussi gentil,
avec autant de générosité, c'est un cadeau en fait. C'est un énorme cadeau.
C'est un cadeau, il faut le voir pour le croire. Isabelle, on tourne, elle est là, elle est présente, elle est toujours présente, même juste pour faire une petite mise en place. Les mises en place, c'est on tourne pas encore, mais on veut voir ce que donne la lumière, ce genre de choses, le cadre. Oui, elle vient, elle est là. Et puis après, elle retourne dans son coin avec son livre, elle lit. Puis elle est là, elle est à dispo, elle est d'une gentillesse. Et puis elle propose. Elle nous fait beaucoup rire, il faut savoir que elle propose et elle-même parfois elle dit bon non là c'était nul, non. Par contre de temps en temps elle propose des choses absolument géniales, et il y en a notamment une dans le film, on va pas dire du coup laquelle là, mais c'est vraiment elle quoi. Elle a des idées de mise en scène. Ils ont tous apporté beaucoup.
Déjà nous on avait fait beaucoup de lectures, donc c'est vraiment la phase où ils s'apprivoisent, où ils commencent un petit peu à travailler ensemble, à se faire rire, à voir un peu quelle va être la distance entre chacun. Et dès que le groupe est créé et qu'ils ont envie de s'amuser ensemble, parce que le but quand on crée un quatuor de comédiens qui va être dans des situations où ils vont être autour d'une table sur des canapés, qui vont être dans, il faut qu'ils aient envie de s'amuser ensemble pour qu'on ait envie de suivre et envie de continuer dans cette histoire. Et vraiment ils n'avaient qu'une envie les uns les autres, c'est de se surprendre. Ils connaissaient le texte par cœur, mais ils avaient envie de se surprendre,
se mettre un peu en danger,
de créer des petites choses qui font que après c'est les petits trucs en plus qu'on a au-delà de ce qui était écrit et qui crée l'humanité, une sorte de sincérité, et qu'on ne peut créer que en ayant des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui sont là pour les bonnes raisons.
Ouais, et ça c'est possible quand on maîtrise parfaitement la partition. C'est con à dire, mais je ferai une analogie avec le jazz. Les musiciens de jazz sont toujours des musiciens de très 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 haut niveau qui sont complètement capables de maîtriser tous les thèmes et en sortir entre eux, en faisant des solos, des impros, des machins, en s'écoutant les uns les autres et en revenant sur le thème à la fin. Ça c'est le principe fondateur du jazz. Et ben ces quatre comédiens, c'est pareil, la partition ils la connaissent sur le bout des ongles, ils l'ont compris parfaitement, mais néanmoins ils savent en sortir et s'écouter et rester dans le truc et revenir. Nous on s'est régalé. Et on invite, en fait, l'idée avec ce film, c'est d'inviter les spectateurs à être dans ce dîner, quoi. Ouais. À prendre place dans un coin et à se laisser embarquer.
C'est une immersion totale. Est-ce que justement le fait d'avoir un décor unique, ça vous a permis de gagner du temps au tournage ?
Bien sûr. Bah le film c'est tourné en 21 jours de
manière. Oui, donc un téléfilm, hein, la même durée qu'un téléfilm pour la télé. Pour dire à quel point c'est quasiment deux fois moins qu'un film en nable.
Ouais, et il y a des jours où on a tourné 12 minutes utiles. C'est-à-dire que la séquence d'apéro, qui est la première grosse séquence ensemble, elle dure 12 minutes 37, je crois, précisément. Et celle-là, on l'a tournée en une journée, un lundi. Et c'était le premier lundi où ils étaient réunis tous les quatre ensemble, en plus. Parce que, en fait, on dit 21 jours de tournage. 21 jours, en fait, c'est 4 semaines, parce qu'on tourne que 5 jours par semaine. Mais véritablement, les quatre ensemble, on ne les a eu que 15 jours. Donc il fallait vraiment pouvoir rentrer des séquences de 8-12 minutes en une journée.
C'est là aussi où l'implication des comédiens compte énormément. Ils ont accepté avec plaisir de faire des lectures très en amont, de s'approprier le texte très en amont, de faire une semaine de répétition. Et puis il faut le dire aussi, c'est un film qui a été financièrement pas simple à monter. Il aurait pu 1000 fois ne pas se faire, et ils ont accepté aussi, eux, de faire de très 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 gros efforts pour que le film se fasse financièrement. Et ça c'est magnifique.
Mais parce qu'ils avaient envie aussi que ce film existe comme nous, et que c'est, voilà, quand on est dans cette énergie là on fait
tout le monde va dans le même sens,
voilà, et on fait les films pour les bonnes raisons,
parce qu'on en perdait un, le film se faisait pas,
hein. Exactement.
Ça repose vraiment sur eux. Bernard Campan, Julia Faure justement, et Pablo Poli vont nous rejoindre dans un instant. On va continuer à en parler. Ça s'appelle Et plus, c'est Affinité. Ça sort mercredi au cinéma. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vos comédiens. Merci Wilfried. Merci Olivier. Juste avant de se quitter, vous préparez déjà le troisième ou pas?
Pop. Est-ce qu'il y a un petit troisième? Il y a plein de projets dans les tuyaux.
En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs troisièmes. Ouais. Donc, lequel sera le troisième, on ne sait pas.
On va peut-être avoir des jumeaux.
Voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas. À bientôt, en tout cas. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci, changez rien, vous êtes au top.
Qu'est-ce que c'est pour qui?
Mais on reçoit les voisins.
Les voisins?
Bonsoir.
Tu ne vois aucun inconvénient à ce que j'aborde le sujet avec nos chers voisins?
Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des boulettes de poulet à la balinaise, c'est indonésien.
Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4h du matin, ça ne gênerait pas de leur en parler.
Je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique?
Attention, hein, très aphrodisiaque aussi.
Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir?
Tu te rappelles? On tenait simplement à s'excuser.
On est bien conscient qu'on doit vous embêter.
Quand on fait l'amour. Parce qu'il y a quand même des soirs, on fait trembler tous les meubles, nous.
Oh.
Si tu veux mon avis, c'est des exhibitionnistes. Les orgasmes atomiques, c'est pas forcément Adèle.
À tous les coups, c'est Caro.
Ouais. Et Caro?
C'est une amie.
Oh, c'est quand t'as bien avec Santiago?
Santiago.
Enfin, Caroline, Santiago, ou d'autres, hein, franchement.
Ou de l'autre. On pratique le sexe en groupe?
Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi c'est la flûte.
Allez, bougez pas, la suite de notre spécial Et plus Affinité, c'est dans un instant avec Bernard Campan, Pablo Poli et Julia Faure. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Avec toi, c'est retour, mais tu souris encore.
le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Voilà, notre spécial et plus, c'est Affinité continue. Après Olivier et Wilfried, eh bien, c'est Bernard Campan qui nous rejoint, le rôle de Xavier. Bonjour Bernard.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous. Bernard, c'est toujours un plaisir de se retrouver parce que bah, quand j'ai un inconnu aussi célèbre à mes côtés, je me sens toujours bien, moi.
Tant mieux, puis ça fait quand même quelques fois qu'on se retrouve, donc autant vous faire plaisir, cher ami.
Exactement. Et puis avec Isabelle Carré, c'est une belle histoire qui est en train de se nouer parce qu'on s'était vu justement pour le film où vous incarniez un caviste il y a un an ou deux, je crois. Et vous vous retrouvez assez vite au cinéma tous les deux et vous nous offrez une partition dans ce film ensemble à mourir de rire.
Ouais, bah merci, mais c'est vrai que c'est la vie hein, qui décide pour nous. Ce scénario est tombé dans les mains d'Isabelle. Mon nom a été proposé. Isabelle d'ailleurs m'a appelé pour me dire j'espère que tu vas faire le film parce que vraiment je trouve formidable. Le scénario nous a plu dès le départ. Et c'est vrai que c'est une occasion pour Isabelle et moi de nous retrouver puis de consolider cet amour du travail qu'on a ensemble. Voilà, ça aide beaucoup de se connaître, hein, de se faire confiance, de s'apprécier. Ça facilite énormément le travail.
Alors on va y suivre Xavier et Sophie qui invitent leurs voisins, c'est ce qu'on disait pour ceux qui nous rejoignent maintenant, leurs voisins du dessus, un peu bruyants. Alors Sophie, elle est super contente de les accueillir, Xavier beaucoup moins, et veut profiter de ce dîner pour faire un peu voler tout en éclats. Prof de musique, qui promène son chien très régulièrement, Alto, et qui rencontre la voisine de palier. Il y a des scènes à mourir de rire avec cette voisine de palier. Mais Xavier, c'est un personnage qui à la fois est peut-être le plus rebelle des quatre, mais tellement attachant.
C'est vrai que c'était pas évident, un peu des écueils que je voulais éviter, mais Wilfried et Olivier m'ont rassuré très vite. C'était de ne pas tomber dans un personnage antipathique, quoi. Et on est dans une comédie, il faut que ce personnage, s'il est aigri, s'il est désagréable, il faut qu'il le soit, mais il faut pas que le public le ressente comme tel au premier degré. Donc ça me faisait un peu peur. Et en fait, j'ai senti que voilà, ça, c'était tout à fait possible d'être ce type aigri qui va avoir face à lui un pilote de ligne, lui pauvre petit prof de conservatoire qui se minimise d'ailleurs lui-même, hein. Voilà, puis un peu cette idée d'être en fin de course dans leur couple, il se passe plus rien. Donc voilà, c'était intéressant de faire ce personnage et de garder la sympathie, quoi, du personnage. Ouais.
Ah, évidemment, on ne dévoilera absolument rien, mais on va dire que dans le final, Xavier donne tout.
Oui, on peut dévoiler un peu parce que c'est le bruit qui dérange Sophie et Xavier, donc notre couple, Isabelle et moi, c'est le bruit d'un matelas qui grince avec des cris, des hurlements de jouissance. Donc pour un couple qui est en pleine usure et qui fait plus l'amour, il y a rien de plus agaçant pour mon personnage en tout cas. Et c'est un couple qui non seulement, moi vous verrez tout à l'heure avec Pablo et Julia, non seulement est très libre dans sa façon de faire l'amour, mais peut bien élargir aussi
le spectre
et très ouvert, voilà. Et ça émoustille et ça Sophie et ça chamboule mon personnage Xavier.
Ça peut faire peur justement d'aller dans un film comme ça avec quelque chose d'hyper théâtral, avec quasiment un décor unique. Au contraire, c'est un challenge justement.
Non, ça me faisait pas peur, au contraire, oui, c'est ça, c'est un challenge. On va faire un huis clos qui est issu d'une pièce de théâtre au départ, donc voilà. Comment faire en sorte que on se sente pas comme dans une pièce de théâtre justement, mais que ça joue aussi comme dans une pièce où on se connaît très très bien et ça fuse, on peut se chevaucher, on peut se reprendre, voilà. Et ça, avec Wilfried et Olivier, nous ont mis à l'aise. Allez-y, vous pouvez parler les uns sur les autres, on se débrouillera au montage. Et donc on a vraiment travaillé en amont comme pour une pièce de théâtre. On a fait 4 ou 5 demi-journées de travail sur le texte, chacun on a appris notre partition sur le bout des doigts, c'est-à-dire que je crois que une fois ou deux on a dû s'arrêter pour dire oh là je sais plus mon texte, mais même si on savait plus on improvisait, donc on est toujours dans du vivant, dans du concret. Donc le défi était là, c'est de faire en sorte que ce soit très très vivant tout ça. Et voilà, je pense qu'on y est arrivé et qu'on n'est pas seulement dans une comédie où allez c'est à toi de parler, c'est à moi, on est très très cadré, on est, ça déborde un peu tout ça.
Oui, Olivier et Wilfried ont laissé pas mal de liberté. Vous aviez déjà vu leur travail sur Jumeaux mais pas trop par exemple avant?
Ben non, j'avais pas vu avant, je l'ai vu j'ai vu juste avant de faire le film. D'ailleurs j'étais surpris, c'est un film très tendre et très touchant, et d'ailleurs dans Et plus c'est affinité, il y a aussi cet aspect touchant en fin de film, très émouvant, et j'ai même eu ma petite larme hier soir.
Non, mais c'est ça qui est génial. Les retours du public ont été, en tout cas, incroyables. Nous, on a eu la chance de le voir à l'Alpe d'Huez il y a quelques semaines maintenant. Et il faut dire que c'est absolument dingue. Les rires qu'on a pu entendre dans la salle, ça fait du bien. Justement, certainement, à vous qui êtes dans la salle, avec une salle aussi nombreuse, de voir rire les gens comme ça en communion.
Oui, c'est impressionnant. Hein. Puis je me souviens, même si on était confiant, on ne sait pas trop quelle va être la réaction du public. Et là, de voir que le public rentre que la machinerie se met en place, que les petits rires qui frétillent au début commencent à s'installer, et après on est dans du rire sur réplique sur réplique. D'ailleurs, on n'entend pas forcément les répliques des comédiens de nous-mêmes là qui jouons. Ça, c'est un bonheur, c'est un grand souvenir. Cette avant-première Alpe d'Huez, c'était un grand souvenir. Ouais.
On va revenir aussi sur la soirée début janvier sur TF1. C'était l'incroyable histoire des inconnus avec quelque chose de très intimiste qui a été dans ce documentaire exceptionnel et qui nourrit peut-être chez chacun d'entre nous l'espoir réel et rapide de vous revoir tous les trois dans un film avec Didier et Pascal.
Bah, c'est bien dit. Alors cet espoir ne sera pas vain parce que Riyad Satouf a l'air un peu en retard par rapport à l'écriture. Donc on pourra peut-être pas tourner le film dans les temps où on voulait, mais le film de Riyad avec les inconnus est bien bien réel. Le synopsis est très drôle. Voilà, le travail qu'il nous a proposé jusqu'à présent est drôle. On n'a pas encore le scénario final. Donc ça, on l'attend. Et moi, je laisse quand même des portes ouvertes pour des films, d'autres films plus inconnus, on va dire. Et voilà, je sais que Didier a réfléchi à des idées. Et puis moi, je suis très ouvert quand même. Voilà. Après, c'est plus difficile pour moi de parler de la scène ou voilà, de refaire du sketch à la télé. Évidemment, pour moi, c'est pas possible. Mais refaire un film pur inconnu, pourquoi pas?
Voilà, l'espoir est là en tout cas, on espère pour 2025. Et puis Bernard, on va être rejoint dans un instant par Julia et par Pablo qui nous ont fait énormément rire. On va recevoir le couple du dessus dans un instant, juste après cette petite bande-annonce. Merci en tout cas et à très bientôt.
Merci beaucoup, merci.
Tout le monde aime le sexe, non?
Toi par exemple, ce que t'aimes, c'est quand tu regardes marcher nu.
Tu regardes ma femme marcher nu?
Oui, par la fenêtre du salon là-bas, oui.
Est-ce que tu me regardes encore, toi?
Les couples ont besoin de se disputer.
Ta gueule avec tes consultations. Je vais te tuer!
Est-ce que tu peux être coincé du cul, Xavier? Ma parole pète un coup!
La nuit ne fait que commencer!
Allez, de retour pour notre spécial et plus si affinité, Adèle et Alban, sous les traits évidemment de Julia Faure et Pablo Poli sont là avec nous, les voisins du dessus. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
On a beaucoup ri, c'est ce qu'on disait avec Bernard, avec Wilfried et Olivier. C'est un film hyper rythmé, avec beaucoup de rire, court, 1h17, mais alors hyper intense. Justement, on s'ennuie pas une seconde. Est-ce que tous les deux, ça peut faire peur quand on voit un scénario comme ça, une espèce de huis clos hyper théâtral? Au contraire, c'est un challenge pour vous de faire un film comme celui-là.
Peur, non, parce que moi j'avais très confiance dans mes partenaires, j'avais très confiance en Wilfried et Olivier. Mais après, c'est vrai qu'il y a un petit défi à surtout ne pas s'installer dans un rythme théâtral, que ça ne devienne pas une captation d'un huis clos, d'une pièce qu'on aurait la sensation d'avoir vu jouer depuis 25 ans sur scène, et que ce soit vivant vraiment, que ça ressemble à un dîner, et qu'il y ait un ping-pong, et que ce soit tout le temps surtout pas installé. Voilà.
La peur, elle est forcément un petit peu là, mais le challenge, moi, me transcende un petit peu. Et de voir qu'on a un huis clos, qu'on va devoir garder le rythme pendant 1h20, 1h30, c'est plus excitant qu'autre chose en fait. Et puis j'ai Julia avec moi, j'ai Bernard avec moi, j'ai Isabelle avec moi, je vois pas ce qui peut mal se passer. Si on n'est pas trop bête et qu'on s'investit suffisamment, il y a rien qui peut mal se passer.
Oui, puis on avait tous envie de faire le même film. Et on savait quel film on avait envie de faire et quel film on n'avait pas envie de faire. Donc ça, c'était quand même déjà un atout.
C'est ça qui est beau pour ceux qui nous rejoignent, hein, c'est Xavier et Sophie qui reçoivent leurs voisins du dessus, un peu bruyants. Si Sophie est très enthousiaste à l'idée de recevoir ses voisins, Xavier, lui, il est beaucoup moins, il compte mettre sur le tapis en tout cas cette histoire, mais il va y avoir un petit revirement de situation, c'est que c'est les voisins du dessus qui vont mettre le sujet sur le tapis avant eux, et ça va créer évidemment tout plein de scènes très drôles et tout plein de situations assez cocasse, et qui va mettre aussi un peu sur le devant de la scène le couple de Sophie et Xavier qui va pas très bien quand même. Donc voilà, on va découvrir en tout cas plein de choses. Et alors, vous avez un rythme tous les deux, et Pablo, toi notamment, mais alors c'est il y a des tics de langage, de visage qui nous fait passer mais des moments de rire totalement hallucinants.
Bah merci, je sais pas trop quoi dire. Merci beaucoup.
Non mais c'est vrai, je te le dis parce que bon, on se connaît depuis un petit moment quand même tous les deux et c'est vrai que pour moi, c'est peut-être le film où tu as montré le plus de comédie en tout cas dans ce que tu as fait.
OK. Bah le rythme, c'est les autres partenaires qui te le donnent, qui t'autorisent à aller vite, à mettre des temps, à rebondir sur ce qu'ils ont dit aussi. C'est eux qui t'offrent ça. Si eux sont fermés à une espèce d'improvisation, une espèce de rebondissement, moi, je peux pas faire grand-chose, donc j'ai la chance d'avoir des partenaires fabuleux en face de moi.
Oui, parce qu'il y a, il y a un peu le yin et le yang, même ce couple très soudé, parce que le personnage d'Adèle est un peu plus tempéré, elle essaye de tempérer, avec des sujets quand même assez assez cocasses, sur l'ouverture d'esprit, on va dire ça comme ça.
Elle sait qu'elle a affaire à un, et elle l'aime aussi pour ça, un jeune chien fou. Donc elle sait que de temps en temps, la laisse. Il faut le rattraper avant qu'il parte trop loin. Et Pablo, ce que j'adore, c'est qu'il est capable de dérailler et de faire dérailler un peu tout le monde et de justement qu'on ne s'installe pas, surtout. Et puis aussi, comme tous les acteurs très intelligents, il sait très bien jouer la bêtise. Et je trouve que quelquefois, t'as quand même des mines. Tu fais des mines d'une bêtise, ouais. Mais merveilleuse.
Moi, ouais, merci.
Ah oui, il y a des mimiques folles.
Voilà, c'était tout ce que...
C'est drôle, la bêtise.
Mais c'est compliqué. Faut pas s'y tromper parce que la comédie, faire rire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au cinéma.
Ouais. Mais c'est bien, on s'est bien écrit, on est bien entouré, on a répété, ça se passe bien. Et moi, on m'autorise à être bête, on m'autorise à modifier un peu le texte, à surprendre les autres qui, du coup, sont obligés, eux aussi, de trouver des choses sur le moment. On a eu beaucoup de chance, on était très bien accompagnés, on a eu beaucoup, beaucoup de chance sur ce film.
Il faut signaler, c'est ce qu'on disait avec Olivier et Wilfried à l'instant, vous avez eu 21 jours pour mettre le film en boîte. C'est le temps de tournage d'un téléfilm. C'est hyper rapide, je veux dire, pour le cinéma. C'est quasiment deux fois moins de jours de tournage qu'un film normal, quoi.
Ouais, mais après, c'était un décor unique dans un appartement à Paris, dans le 9e. Et puis, on tournait dans l'ordre chronologique. Ça, c'était le vrai luxe du film, de pouvoir tourner les séquences.
Ça se sent, ça.
Ouais, ça, c'était génial. Et de tourner, de terminer, de faire une séquence par jour. Et donc, d'avancer au rythme des personnages. Et moi, mon personnage, je l'ai découvert aussi au rythme du tournage, en fait. Il y a plein de choses qui n'étaient pas aussi claires que ça dans ma tête. Et pourtant, on avait répété avant. Et qui se sont dessinés et affirmés au fil du tournage, grâce, et qui se sont même, je pense qu'ils ne voulaient pas la même fin pour notre couple. Mmh. Et que c'est à partir du moment où je me dispute avec toi, où j'apprends que tu as fait une petite entorse à notre contrat, qu'ils ont dessiné une autre fin à notre couple. Et que si on n'avait pas tourné dans l'ordre, par exemple,
on n'aurait pas pu faire ça.
Ouais. Oui, ça aurait été plus attendu en fait.
Quand vous allez voir tous les détails de l'entorse, vous allez exploser de rire, je vous le dis. Voilà, on va pas vous en dévoiler davantage pour vous laisser évidemment cette surprise. Ce film est une adaptation d'un film espagnol qui a existé d'abord au théâtre justement, qui est devenu un film, qui en France a son adaptation. Et apparemment, ce que nous disaient à l'instant Olivier et Wilfried, va reconnaître aussi une vie au théâtre en France. Est-ce que vous, en tout cas, vous seriez partant pour reprendre justement vos deux rôles au théâtre ?
Ah, avec la même équipe, oui. Avec Bernard, Isabelle et Pablo, oui.
Oui, c'est très bien répondu. Avec la même équipe, oui. Avoir d'autres personnes, ça ne m'intéresserait vraiment pas. La même équipe et qu'on puisse se faire...
Ça serait le but, oui.
Qu'on puisse se faire ça entre nous et retrouver des nouvelles choses, se resurprendre. Alors ça, quand vous voulez.
Et puis avec en plus les rires immédiats du public devant vous et les gens dans la salle que vous pouvez ressentir en tout cas, ça doit être énorme ça.
Ouais, c'est très très agréable ce truc-là.
Est-ce que vous avez une scène particulière en tout cas qui va rester marquée ? On nous parlait d'une scène là justement qui durait 12 minutes sur une journée que vous avez tournée. Il faut rester hyper concentré pour mettre autant de minutes utiles sur une journée. Mais est-ce qu'il y a une scène particulière qui va rester ou qui est partie en fou rire peut-être tous les deux ?
On est parti en fou rire avec Isabelle, elle et moi, dans la scène dans la chambre. Il y a eu beaucoup beaucoup de fou rire là-dessus. Et Isabelle était brillante en disant on en refait une fois que les deux réals ont dit c'est bon là. Moi j'étais un petit peu inquiet pensant que j'en avais trop fait. Isabelle a dit on en refait une, elle a tout fait redescendre. Je me souviendrai de cette scène à tourner en tout cas avec elle, ça m'a régalé ce jour-là.
En fait moi c'est plein de dialogues qui me restent en tête. Toutes les scènes sont au même niveau en fait. C'est vrai hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un équilibre, donc j'ai pas vraiment de pic. Il y a des scènes moi j'adore la scène dont tu viens de parler Pablo hein, dans la chambre, j'adore cette scène et tout ça.
Tu t'assois sur le lit, tu le testes, ça grince pas ici.
Mais franchement c'est tellement. Et le moi j'adore quand tu dis quand elle te dit j'ai chaud et que tu lui dis oui, ça se voit. J'adore.
C'est horrible de dire ça. Qu'est-ce qui m'a pris ?
Oh là là.
Non mais c'est très très bon. En tout cas, vous allez voir, vous allez beaucoup rire. On en a besoin en ce moment hein, de rire au cinéma, justement, et de rire tous ensemble. Donc, allez voir ce film en salle. En tout cas, il sort mercredi. Ça s'appelle Les Plus. C'est Affinité. On va terminer avec vos projets à tous les deux pour 2024. Dans quoi on va vous voir d'autres cinémas, théâtre, télévision ?
Alors moi, je vais reprendre en tournée un spectacle de Bertrand Bonello qui vient de monter à la Philharmonie de Paris. Et je pars avec Eric Reinhardt faire une tournée aussi de lecture de son dernier roman Sarah Suzanne et l'écrivain. Et j'ai aussi une série pour Disney Plus sur Karl Lagerfeld, Kaiser Karl, qui sera diffusée en février sur Disney. Voilà.
Cool. Et toi, Pablo?
J'ai 4 films à tourner, mais je sais pas ce qui va se faire en premier ou pas, donc vous verrez quoi.
Voilà. Bientôt, en tournage.
J'espère, maintenant faut que ça se monte, mais oui, bientôt.
Bon, merci en tout cas Pablo, merci Julia d'avoir été avec nous, et puis on vous dit à très très bientôt. Et Plus Affinité, c'est donc mercredi dans les salles, à très vite.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, c'est pour Face à Face qui fait son grand retour tant attendu demain soir sur France 3 à 21h10. On va y retrouver le personnage de Justine Rameau, alias Claire Borotra, qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour.
Quel plaisir de vous retrouver toutes les deux avec Constance Gay. C'est un duo qui nous avait tellement charmé, fait rire il y a 2 ans dans cette première saison de Face à Face. Il aura fallu attendre 2 longues années pour découvrir enfin la suite. Et elle arrive demain soir pour notre plus grand plaisir. Et avec pas mal de surprises en tout cas au rendez-vous pour cette 2e saison. J'imagine le plaisir que vous avez eu à vous retrouver toutes les deux aussi.
Bah oui, nous on n'a pas arrêté de tourner finalement depuis 2 ans, mais donc on a eu beaucoup de plaisir à tourner et là on a énormément de plaisir à ce que ce soit enfin diffusé. J'ai eu beaucoup de demandes pendant ces longs mois en disant ça arrive quand, bah ça y est. C'est maintenant. Mais plus longue est l'attente, meilleur est le plaisir, non?
Ah ben ça c'est clair. Et puis alors, vous retrouver toutes les deux, c'est juste jouissif parce que franchement, tout vous oppose, toutes les deux, entre Justine Rameau, cette juge d'instruction, et Vanessa Tancelin, cette commandante borderline de SRPJ de Strasbourg, qui n'ont qu'un seul point commun, c'est leur papa. Et évidemment, qui va leur faire ce cadeau de leur annoncer juste avant de mourir. Et puis, mais évidemment, eh ben toutes les deux, ça va être à couteau tiré, mais à la fois, mais tellement sympathique à vous voir toutes les deux, franchement. C'est vraiment génial cette série. C'est de la comédie politique. Au sens noble du terme.
Bah, on s'amuse beaucoup avec Constance. Il y a une grande tendresse réciproque, ce qui est déjà une grande chance pour nous, parce que c'est pas toujours le cas dans les séries télé. Mais nous, on s'aime vraiment beaucoup, on s'amuse. Je trouve que la fratrie, c'est quelque chose qui est pas si souvent visité que ça à la télévision. Et donc, c'est chien et ça, c'est comme 2 sœurs. Même si elles se sont découvertes très tardivement, elles ont exactement les mêmes réflexes qu'on a tous avec nos frères et sœurs, c'est-à-dire ces disputes et ces réconciliations qui font le sel de la vie.
Oui, c'est ça, on a l'impression qu'elles sont tout le temps en train de s'engueuler, en fait, hein, qu'elles sont d'accord sur rien, mais en fait, qu'il y a aussi une affection qui se noue au fur et à mesure des épisodes. Et alors que vous tournez tout dans le désordre, il a fallu ça arriver à le jouer pour le doser savamment à chaque fois.
Ah oui, ça c'est un vrai travail, c'est vrai, de réussir à raconter une histoire en tournant tout absolument dans le désordre. Après, ce qui est sympa, c'est vrai que tout les oppose et qu'en même temps, elles ont quelque chose qui les unit, qui est le goût de la justice. Elles veulent que justice soit faite toutes les deux, alors avec des manières complètement différentes.
C'est moins qu'on puisse dire.
Et puis la tendresse, c'est vrai que je trouve que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec la violence, la brutalité de cette société, du monde en général, la tendresse et l'humour, ce sera, je crois, les 2 piliers de ma vie. Et on essaye de les transmettre à travers cette série et à travers ces 2 sœurs.
Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette 2e saison, puisque Justine s'est séparée à la fin de la 1ère saison. Il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent dans sa vie. Elle va se lancer pour donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Elle va devoir faire face aussi à l'arrivée de la mère de Vanessa dans la maison commune. Et évidemment, ça va pas être sans créer quelques frictions.
Super de Marianne James. Génial, Marianne James.
Ah, elle est exceptionnelle.
Elle est géniale. Et puis, c'est une femme incroyable et qui a été d'une humilité quand elle a commencé, travailleuse, qui comprend très vite comment ça se passe. Et donc, oui, donc Justine, en fait, est l'artisan définitivement depuis le début de son malheur. Et quand elle voit que sa sœur va pas bien, elle se dit qu'elle va faire venir sa mère et que ça va aller mieux, mais qu'elle n'imagine pas, c'est que c'est Vanessa puissance 10 000, en fait, la mère de Vanessa. Et Marianne, elle arrive avec sa capacité d'envahissement sonore, en termes d'invasion de la pièce, elle met ses affaires partout, etc. Et donc, pour Justine, c'est quand même juste le cauchemar. Donc, elle a rajouté un élément supplémentaire de difficulté à sa vie, mais ça fait des scènes de comédie. Et en plus, Vanessa et sa mère ne s'entendent pas du tout. Donc c'est vrai que c'est une promesse de comédie et de tendresse familiale, encore une fois, et en même temps de conflit qui est assez jubilatoire, je trouve.
Alors, on va découvrir les deux premiers épisodes demain soir, et c'est à la fin du premier qu'il va y avoir l'arrivée de Marianne James. Ne ratez pas ce final de l'épisode 1. Vous allez mourir de rire. Vous allez voir la réaction de Constance. Moi qui ai pu le voir en avant-première, je peux vous dire, vous allez vous régaler, c'est sûr. Alors là, il y a 10 épisodes, donc on a 5 soirées à passer avec vous. Mais alors, la bonne nouvelle quand même, Claire, c'est que vous avez déjà tourné la saison 3. C'est génial.
Bah oui. Écoutez, nous on s'est pas arrêté. Diffusé, pas diffusé. La chaîne nous a fait confiance. On est vraiment super soutenu par France Télé et du coup, on a pu continuer à tourner. Et donc on a une saison d'avance. Et j'espère qu'on tournera la saison 4 à partir de septembre. Et comme ça veut dire qu'on rattrape plus jamais un rendez-vous avec le public normalement.
Ah et puis surtout, on va essayer de vous retrouver annuellement maintenant. Ça serait bien que la saison 3 ne t'attende pas 2 ans. Ça c'est clair.
Exactement. Et nous on est super heureux parce que c'est vrai qu'on tourne d'abord à Strasbourg, qui est un endroit hyper agréable à vivre. Même s'il fait quand même un peu moins 10 l'hiver et 40 l'été, hein, je ne le cache pas. Mais les gens sont hyper accueillants. Et on a une sorte de famille, l'équipe technique, on se retrouve tous les ans. Et moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, parce que j'ai jamais fait de série. Et cette famille où on vit nos ruptures, nos réconciliations dans nos vies personnelles, les enfants qui grandissent, les choses, les épreuves qu'on traverse, on les vit tous ensemble, tous les ans, en se retrouvant. Il y a une chaleur humaine et une équipe géniale, avec une production avec laquelle on s'entend bien. Et j'avoue que je me dis qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance de vivre ça, et que j'espère que le plaisir qu'on prend, on le retransmet un tout petit peu dans la série, aux gens chez eux qui sont peut-être quelquefois tout seuls.
Et puis il va y avoir des guests évidemment dans ce début de saison aussi, comme un peu dans chaque épisode, et un guest que les téléspectateurs d'ici tout commence connaissent bien, c'est Dembo Camilo qui joue Suleiman, qui va être en quelque sorte le guest de cet épisode. On va parler de lanceur d'alerte en tout cas dans ce premier épisode, sans en dire plus, hein.
Oui. Et ce qui est assez chouette dans la série, c'est que c'est des problématiques plus que des meurtres. Alors, il y en a forcément quelquefois, mais on s'axe aussi quand même toujours sur cette notion de droit qu'on essaye d'expliquer sans être trop pédagogique. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que Justine Ayala Sfak était un élément que je trouvais intéressant, que j'avais proposé et dont ils se sont saisis, et je les en remercie. Parce que je trouvais que ça permettait quelquefois d'expliquer un tout petit peu mieux les notions de droit, qui je crois font partie de l'intérêt de la série aussi. Et donc avec des élèves et une génération jeune comme ça qui sera le judiciaire à venir, c'était assez sympathique de pouvoir le faire. Et là sur les lanceurs d'alerte, c'est un sujet passionnant et qui font que la démocratie est vivante, et je trouve que oui, c'est assez intéressant à chaque fois de pouvoir découvrir et comprendre un tout petit peu mieux le monde dans lequel on évolue.
Et on va retrouver Mireille Kassem aussi, qui fait son arrivée dans le rôle d'Elias Sarraoui aussi, qui fait son arrivée, pour le plus grand plaisir, ou pas, de Vanessa Tancelin. Ah, vous allez voir.
Ah oui, ça c'est... Mais en revanche, pour le plus grand plaisir du spectateur, parce que Amir, vous allez voir...
Il est génial.
Et puis le personnage, il prend son essor au fur et à mesure des épisodes, et il devient vraiment irrésistible et très drôle. Il a réussi à construire un truc, Amir, qui est vraiment chouette.
À découvrir demain soir, 21h10, c'est la saison 2 de Face à Face qui revient sur France 3. Merci beaucoup Claire, en tout cas, d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes pour en parler. Et on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.
À très vite. Et tout de suite, un petit extrait.
Salut, c'est ça. On gère le départ à la PJ de Colmar de notre ex, hein, donc votre ex-mari, mon ex-patron. Et on attend son remplaçant.
Montrez-moi que vous pouvez faire votre métier dans le cadre de la loi.
Il m'a déjà gavé, Robocop.
Mais non, c'est pas ce que t'as fait qui l'a poussé au suicide. Je te promets.
Oh, tu vois, tu viens de le dire. Eh ben, elle se prépare.
T'as des nouvelles de ta mère?
Non, j'en veux pas, j'en donne pas. Ma mère, c'est affaire classée.
Coucou! Bonsoir, ma chérie!
Mais comment t'as pu proposer à ma mère de venir sans me demander?
Je sais que ça va pas depuis le suicide de Konaté. C'est pour ça que j'ai appelé ta mère, pour qu'on soit deux à être là pour toi.
J'archive? Demande du patron?
Non, mais on archive rien du tout.
Tu fais une fixation sur ce type, en fait.
Bonne chance, Vanessa.
J'ai besoin de récupérer les fichiers d'une entreprise.
Je les ai, tes infos.
Oh, constat, là!
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à OPJ qui continue donc jeudi avec un deuxième prime événement inédit qui nous attend, avec toujours aux commandes Clarissa O'Hara qui est jouée par Yael Troulès qui nous rejoint. Bonjour Yael.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
C'est notre petit rendez-vous annuel, et pour notre plus grand plaisir qu'on retrouve OPJ, ça nous dépayse, il y a des enquêtes passionnantes, des paysages à couper le souffle. Quel bonheur de retrouver cette cinquième saison inédite, qui non seulement va se décliner en prime donc jeudi, mais qui va aussi revenir pour 14 épisodes inédits à 14h20 du 18 au 26 avril pour les vacances de Pâques. C'est le cadeau de France 3 aux téléspectateurs fidèles d'OPJ. Franchement, c'est chouette de vous retrouver.
Ben merci, pour nous c'est chouette de retrouver le public aussi et c'est chouette d'être diffusé à cette période-là. Voilà, on espère que ça va vous plaire avec des enquêtes encore plus riches les unes que les autres. C'est un projet dans lequel je m'investis beaucoup, qui me tient à cœur, et pas seulement moi en fait, à toute l'équipe qui est à 90% réunionnaise. Et de voir qu'on est vu même et bien aimé en Normandie, en PACA, en Bretagne, partout, ça nous fait vraiment chaud au cœur.
Et puis ça fait du bien la Réunion, hein, mine de rien, parce que ça nous donne vraiment tous envie. Voilà, de découvrir ces beaux paysages de la Réunion. Et c'est vraiment très très chouette. L'île vous a accueilli, puisqu'il faut quand même le signaler, la première saison d'OPJ avant le Covid a été tournée en Nouvelle-Calédonie. À la base, c'était en Nouvelle-Calédonie que ça devait se faire, mais on a l'impression vraiment que la Réunion vous a adopté là maintenant.
Ben oui, c'est vrai qu'au départ, ce projet, il était prévu pour rester en Nouvelle-Calédonie. Bon, avec le Covid, on a émigré à la Réunion. Moi, c'est chez moi, donc ça m'arrange.
Ça t'arrange, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça arrange moins Marielle, mais toi, oui.
C'est vrai que ça fait loin. Hein. En plus, maintenant, elle a un bébé, donc pour voyager, c'est plus dur.
Ben oui.
Mais non, mais... C'est-à-dire que la production avait déjà des attaches avant avec Cut sur La Réunion, donc ça a été plus simple de rebondir à La Réunion. Et il faut dire que de plus en plus, on monte en compétences sur tous les postes de tournage. Il y a 90% de l'équipe, en termes de techniciens, ce sont des locaux, hein, c'est des gens d'ici. En termes de rôles aussi, on a une centaine de gens qui viennent pour jouer des rôles intéressants. Hein. Ça peut être une veuve éplorée comme un psychopathe... Donc des rôles quand même qui sont engageants et qui sont joués à la fois par des amateurs et à la fois par des professionnels.
Mais oui, et puis OPJ, ça tourne très très vite aussi, faut le dire, vous tournez dans des conditions. Pour tourner 18 fois 52 minutes, pour vous donner un ordre d'idée sur une fiction de prime time, on est sur quasiment 9 mois de tournage, vous tournez ça en 3 mois quoi. C'est quand même assez dingue de tourner aussi vite en faisant d'aussi belles enquêtes et en tournant une série d'aussi bonne qualité en tout cas.
C'est vrai que c'est assez dingue. Je sais pas si les gens, le public se rend compte, mais après, c'est un rythme qui est freiné, qui est très soutenu. Mais on est quand même une équipe qui se connaît quand même depuis maintenant quelques années et qui avons l'habitude de fonctionner ensemble. Donc il y a des automatismes, il y a des choses qui se créent, des affinités, que ce soit avec les techniciens ou avec les comédiens. Enfin, il y a quelque chose de naturel en fait. C'est vrai qu'en première saison, j'avais l'impression que c'était insurmontable. Et maintenant, je vois plus du tout ce côté-là. On prend vraiment plaisir à être les uns avec les autres, à défendre ce projet-là. J'ai plus la notion de fatigue psychique, quoi.
Oui, bah, et puis à vous connaître par cœur, vous gagnez du temps automatiquement. Vous êtes plus efficace, c'est certain. En tout cas, sur ce deuxième prime jeudi, on va y voir des guests de choix, puisque nous allons voir arriver à La Réunion Lanny Gautry dans le rôle de César Narbonne et Armel Dutch, qui s'apprête à quitter l'hôtel, mais dans des conditions un peu compliquées, puisqu'il va être interpellé par sa famille, puisqu'un employé va être retrouvé mort dans la chambre de son fils. Et évidemment, pour la commandante Clarissa O'Haraud, que tu joues, l'affaire va être sensible, puisque César Narbonne est à la BRI de Lyon. C'est quelqu'un de la maison. Comment faire, évidemment, pour ménager la chèvre et le chou dans ces conditions?
Ça va être une enquête très sensible avec un Lanny Gautry qu'on attendait de pied ferme. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie qu'il soit guest, en fait, et de l'inviter. Je crois que la prod aussi sur OPJ. Il a enfin pu se libérer pour ce projet-là. Je pense qu'il a, voilà, il a pris du plaisir à tourner avec nous sur cette enquête. Et effectivement, c'est difficile de au départ, c'est difficile la collaboration parce qu'il veut pas du tout collaborer, surtout qu'il s'agit de son fils qu'on remet en question. Et puis, ça a fini, je vais pas dire avec si ça finit bien ou mal, je vais pas trop en dire.
Bah non.
On a Armel Dutch aussi sur cet épisode. On a plusieurs guests aussi qui ont pris plaisir à jouer, à venir à La Réunion et à venir s'infiltrer dans ces enquêtes.
Oui, c'est toujours un cadeau pour vous quand vous recevez justement des personnalités qui viennent émailler un peu vos enquêtes depuis la métropole et qui viennent vous accompagner. Mais en tout cas, OPJ, c'est aussi la série en 14 fois 52 minutes et qui sera diffusée dès le 18 avril, puisque vraiment, c'est la bonne nouvelle. OPJ revient au quotidien du lundi au vendredi pendant 7 jours quasiment d'affilée pour découvrir cette cinquième saison inédite avec des enquêtes toujours aussi passionnantes. Et puis des enquêtes bouclées en 2 fois 52 minutes chaque jour. Donc c'est ça qui est bien aussi pour le téléspectateur.
Oui, il y a les côtés enquête et puis il y a le côté vie perso aussi. Je pense que ce qui fait qu'on s'attache aussi à ces personnages-là, c'est qu'ils ont forcément des aspérités aussi. Mais moi, en tant que commandant, ça se passe bien, assez bien à la brigade. J'arrive à peu près à mener mes hommes, mes troupes. Par contre, à la maison, c'est autre chose. Et c'est marrant de voir ce contraste-là.
Oui, les enfants, c'est pas simple non plus, hein. On a l'impression, des fois.
Les enfants sont pas simples, les mecs, c'est pas simple, y a rien qui est simple dans cette vie de flic. Et je me dis qu'il vaut mieux que je sois comédienne que flic, en fait.
c'est un peu ça. On va y retrouver, évidemment, toujours ce quater de choc avec Antoine Stipe, qu'on embrasse. Je sais qu'il nous écoute quasiment tous les lundis. Et on l'embrasse très fort, Nathan Delhem, Marielle Carabeux. C'est un quater, voilà, qui est vraiment emblématique aujourd'hui d'OPJ. Est-ce qu'il y a un fil rouge sur cette saison 5, malgré tout, qu'on va suivre dès le 18 avril?
Non, le fil rouge, c'est ces quatre personnages-là, avec une surprise par rapport à Antoine Stipe, une surprise par rapport à le rapport entre Clarissa Waro et Gaspard, on va dire, où les rôles s'inversent un petit peu. Mais non, je vais pas trop en dévoiler, sinon c'est trop facile.
Mais oui, puis le mieux, c'est de regarder à partir du 18 avril à 14h20 sur France 3.
Exactement, on espère que vous serez au rendez-vous ou dans le pire des cas, en replay, c'est aussi possible. Et on a des super audiences en replay. Donc, on est très fiers, nous, de ce qu'on propose. Et comme je vous disais tout à l'heure, on fait vraiment avec le cœur. On espère que ce sera reçu comme tel.
Eh bien, j'en suis sur OPJ avec un épisode exceptionnel. Noce de sang, c'est donc jeudi à 21h10 sur France 3. Et puis la saison 5 inédite, c'est à partir du 18 avril à 14h20 sur France 3. Et aussi, bien sûr, sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup, en tout cas, Yaël, d'avoir été avec nous. Et puis, on te dit à très vite.
Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir parce que t'es là depuis le début et tu nous soutiens. Donc, merci beaucoup à toi et à tous les auditeurs.
Et on sera là pour la saison 6. Promis, on sera là puisque je sais que vous allez vous mettre au travail très, très vite pour nous tourner une 6e saison qui sera évidemment passionnante et qu'on retrouvera en 2025 sur France 3 également. À bientôt.
À bientôt. Bye bye.
Ok, très bien. Écoute, je t'appelle quand je sors de l'avion, d'accord? À tout à l'heure. Ciao.
Excuse-moi, c'était le boulot.
Sans blague.
Il est où, Mathis, là?
Je sais pas. Il disparaît tout le temps, comme son père.
T'as réglé?
Non, pas encore. Apparemment, il y a un bug informatique.
Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi, je veux pas vous stresser, mais on a un avion à prendre.
Je sais, monsieur Narbonne. Je fais mon maximum.
Mais pourquoi vous êtes stressé, là? Je veux pas vous braquer, je veux juste payer.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Mathis, t'étais où, là?
J'étais juste parti dire au revoir à Lola.
Depuis quand Ellie, lui? Bon, monsieur. Monsieur, je peux payer parce que là, sinon, je fais un plan basket. Hein.
On y est presque, monsieur.
Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive?
Viens.
Qu'est-ce qu'il y a?
Viens. Mathis, lève-toi.
Tu fais mal, là.
Police! Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît?
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Home Jacking, une nouvelle série inédite qui débarque sur OCS Pulp dimanche soir et qu'on va découvrir, créer, réaliser. Mise en scène de musique aussi, Hervé Anmar, qui est notre invité. Bonjour, Hervé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis dans un instant, Marie Dompnier et Yannick Chouara vont également nous rejoindre. Un gros coup de cœur à Sérimania, pour ma part en tout cas, sur cette série qui nous happe du début à la fin. Hervé, comment est né en tout cas ce projet?
Écoutez, moi j'avais déjà travaillé avec les producteurs, Christine de Bourbon-Busset et Marc Messonnier, sur deux autres séries. Donc on se connaissait bien et moi j'ai réalisé 9 séries. En fait, j'ai créé et réalisé 9 séries en tout dans ma vie. C'est la 9e et c'est la première et la seule que j'ai pas écrite. Et on m'a envoyé les scénarios, les producteurs m'ont envoyé les scripts, et j'ai eu le même plaisir que vous. Le plaisir que vous décrivez, en fait, je l'ai eu en lisant les scripts, où j'étais embarqué, où j'étais surpris en tournant les pages, de page en page, d'épisode en épisode. Et quand j'ai refermé le scénario, j'avais vraiment envie de réaliser ce texte et d'en écrire la musique, effectivement. Donc voilà, ça s'est fait. Voilà, moi aussi, j'ai eu un coup de cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Alors, il y a les personnages, évidemment, de Richard et d'Isabelle qu'on va découvrir dès le départ, qui vont être victimes d'un homejacking. Et puis, il va y avoir plusieurs points de vue au fur et à mesure des épisodes. Et puis, on va découvrir que peut-être, effectivement, ces victimes ne le sont peut-être pas tant que ça. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais on va pas vous gâcher votre plaisir, évidemment, pour que vous soyez aussi surpris que nous au fur et à mesure de cette découverte. Dans tous les cas, il y a un personnage à part entière, c'est cette maison. Elle est d'une beauté et à la fois d'une angoisse assez saisissante et inquiétante au milieu de cette forêt. Plus ces labyrinthes, c'est au même endroit tout ça? Ou est-ce que ces décors de sous-sol ont été pris ailleurs?
Non, les décors de sous-sol sont ailleurs, on a triché. Mais la maison, c'est une maison, moi quand je l'ai vue et quand on a décidé que c'était cette maison... C'est une maison Rubik's Cube, c'est une maison puzzle quand on la regarde bien. C'est à l'image de l'histoire et de la narration de cette série qui est une narration puzzle où, comme vous l'avez si bien suggéré, c'est au spectateur d'être actif et d'essayer de trouver la vérité, de résoudre le mystère par lui-même à travers plusieurs points de vue. Et cette maison permettait ça. Quand je l'ai vu, je dis, c'est cette maison-là. Et vous allez me croire ou pas, d'ailleurs si, il faut me croire parce que c'est vrai, tout était là, les meubles étaient là, tout était là. Voilà.
Bibliothèque aussi.
La bibliothèque aussi, tout était là, sauf tout ce qui se trouve sous nos pieds.
Alors, on verra dans le deuxième épisode qu'on verra dimanche aussi, on va faire connaissance avec un frère et une sœur qui sont interprétés par Carl et Sofia, deux jeunes comédiens absolument incroyables. Au troisième, on découvrira encore d'autres personnages. Vraiment, au fur et à mesure, c'est toutes les pièces du puzzle qu'on va essayer de rassembler.
C'est exactement ça. C'est une série très ludique, hein. On essaye de s'amuser. D'abord, moi, je me suis beaucoup amusé à la faire. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir et on essaye de donner du plaisir au spectateur et que ce soit amusant pour lui. D'être actif, on regarde une série et on participe presque à un jeu. Essayer de trouver la vérité, quoi.
Il y a une chose très importante, on le disait, c'est la musique. Elle nous emmène justement dans l'univers et nous fait basculer immédiatement. On n'aurait pas la même lecture sans la musique que vous y avez apportée, même si elle nous amène une certaine forme d'angoisse, il faut le dire quand même, mais c'est elle qui nous plonge littéralement dans l'histoire.
Mais la musique sert à ça, la musique sert à exprimer ce que les personnages principaux ressentent au plus profond de leur âme et au plus profond de leur cœur. Et là, on est quand même dans un thriller. Donc oui, la musique peut être un peu angoissante par moments, tendue, en tout cas elle est un peu hypnotique, vous avez raison, elle est un peu hypnotique et elle participe... à l'idée de plonger le spectateur dans un labyrinthe.
Alors, dès le premier épisode, on va suivre Richard et Isabelle. Richard, lui, est romancier, professeur à la Sorbonne. Ils sont quand même, tous les deux, ont des belles situations, puisque Isabelle, elle, est chirurgienne médecin. Et donc, ce couple d'apparence tranquille va être victime d'un homejacking avec un garçon cagoulé, d'une belle cagoule rose. Et ça va embarquer, effectivement, ce couple dans toutes sortes d'histoires et faire ressurgir aussi, peut-être, certains démons du passé.
Oui, bien sûr, la vérité est ailleurs. La vérité se cache dans les souvenirs, dans les flashbacks. On va voir des flashbacks. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison il y a 20 ans? Quelle est la véritable histoire de ce couple? Comment il s'est construit? Comment il a évolué? C'est cette femme qui est le personnage interprété par Marie Dampnier. Qui est-elle vraiment? Au fond, c'est sans doute elle le plus grand mystère de la série. Qui est cette femme?
Quel a été peut-être votre plus grand souvenir sur ce tournage? Parce que j'imagine que sur les séries que vous avez réalisées, vous avez toujours des souvenirs qui restent peut-être particulièrement. Sur celui-là, ce sera lequel?
Comme ça, instinctivement, eh ben, en fait, le plus grand souvenir, c'est pas pendant le tournage, c'est juste avant, quand j'ai vu la maison pour la première fois, justement. Voilà.
Ça m'étonne pas que ça soit la maison, peut-être, qui va rester un peu dans cette mémoire.
C'est là où je me suis dit, ah oui, je sais comment je vais raconter cette histoire. Là, j'y crois. Avec cette maison, j'y crois. Parce que vous qui connaissez la fin, et on va évidemment pas la spoiler, faut quand même y croire. Faut quand même plonger. Faut accepter. Vous savez, Homejacking, c'est une série. On n'est pas dans une histoire vraie. On n'est pas dans une série qui raconte un fait de société ou qui plonge dans un fait réel, dans des problématiques contemporaines. On est dans un conte. Et il faut accepter de se laisser bercer et de plonger dans un conte, dans une fable. Et plus on avance dans la série, plus le conte nous envahit.
Est-ce qu'on peut imaginer, Hervé? Bien sûr, rien dire un épisode 6. Mais est-ce que ce final, en tout cas, qui nous attend, peut laisser une porte ouverte vers une éventuelle suite?
Alors, pas proprement parler, une suite, non. Pas avec ces personnages-là, pas avec cette maison-là.
Donc l'histoire sera bouclée, on aura les réponses quand même à toutes les questions qui vont être posées durant ces 6 épisodes.
Ah oui, oui, oui. Quand vous avez vu les 6 fois 40 minutes, vous avez tout vu, vous avez toutes les réponses à toutes les questions.
Ça, c'est formidable, déjà. Homejacking, c'est donc dès dimanche sur OCS Pulp. On va écouter la bande-annonce. Et puis, on va revenir juste après avec Marie Dompier et Yannick Chouara qui nous rejoignent. Merci Hervé. Et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
C'est des flics bois ça, hein? Donc oui. Ça, toi et moi, on sait que... on peut pas se le permettre. Non?
J'ai toujours trouvé ça fascinant. La peau. Il se régénère. Il cicatrise. Elle protège. Elle nous aide même à appréhender l'autre. À la douleur. À la douceur. C'est notre outil pour explorer le monde.
Et on continue à parler de Homejacking. C'est à partir de dimanche sur OCS Pulp que vous allez pouvoir découvrir en tout cas les deux premiers épisodes de votre nouvelle série. Et on a Yannick Chouara et Marie Dompnier qui nous ont rejoints. Chose promise, chose due. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de Richard et Isabelle. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a plu un peu dans ce projet de Homejacking qui est quand même très particulier, ce qu'on disait avec Hervé il y a quelques instants, mais On est emmené sur plusieurs pistes, on est emmené sur plusieurs époques. C'est incroyable cette série, moi j'ai vraiment adoré. Donc vous, qu'est-ce qui vous a plu au premier abord, Marie ?
Ce qui m'a plu, c'est de retrouver Hervé Admar, déjà, puisque j'avais travaillé avec lui. Et puis c'est ce scénario construit comme un Rubik's Cube, avec des points de vue toujours qui diffèrent. Et donc ce personnage d'Isabelle, qui est à la fois, oui, on peut dire très trouble, et de faire ce duo avec Yannick, voilà, c'était le très bon combo.
Yannick.
Eh ben, moi aussi, de faire le duo avec Marie, et avec Hervé aussi, un trio d'ailleurs. Et puis après, tous les autres, évidemment. Mais bon, il y avait déjà ça, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble avec Marie et Hervé sur Les Témoins, deuxième saison. J'étais ravi de les retrouver. Et puis aussi, cette dramaturgie, effectivement, ce jeu de piste, cette dramaturgie un peu diffractée où on va perdre le spectateur, on va le retrouver, il va se faire des idées, il va s'interroger, je trouvais ça jubilatoire. Ça m'a bien excité, quoi.
Ça m'étonne pas, parce qu'on arrive sur une piste en fin d'épisode 1, vous verrez, on aura une suite sur épisode 3, enfin vous allez voir, ça va être complètement divergent en fonction des points de vue de chaque épisode. C'est ça qui est chouette, c'est que ça nous emmène vraiment dans des univers différents, et on s'apercevra qu'effectivement ces deux victimes que vous faites au début de la série ne sont pas peut-être si victimes que ça. C'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure, évidemment. Autre personnage important, cette maison, elle est incroyable, c'est un miracle de trouver un décor comme ça.
Ah ouais, c'est assez dingue. Mais d'ailleurs, nous, quand on l'a découvert, ça nous a tout de suite parlé. Enfin, on a tout de suite projeté le couple à l'intérieur de cette maison. Et puis, dans ces méandres comme ça, et qui devenaient un peu la représentation de leur psyché, quoi. Ce monstre à deux têtes vivant dans ce qu'on pourrait même appeler un mausolée, quoi. Voilà, où ils vont vivre des aventures tragiques.
C'est clair, Marie.
C'est vrai que ça a été un appui de jeu formidable, parce qu'on a l'impression d'être dans leur tête, en fait. Donc il y avait toutes les scènes qu'on a avec Yannick, il y avait nous deux, et il y avait un troisième partenaire, en effet, cette maison qui fait penser au grand film d'angoisse, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'était très inspirant.
La musique n'y est pas pour rien, évidemment. Alors Isabelle, elle est chirurgienne. Le personnage de Richard, lui, est professeur à la Sorbonne et aussi romancier avec des best-sellers. Et puis ce couple d'apparence assez tranquille va donc être agressé à son domicile. Pourquoi, comment, c'est ce qu'on va dérouiller un peu tout au long de ces 6 épisodes. Mais comment vous définiriez-vous déjà vos personnages à tous les deux? Déjà celui d'Isabelle, peut-être, Marie.
Je dirais que c'est une femme très amoureuse, très ambitieuse et très trouble.
C'est pas mal, 3 objectifs, parfait. Yannick.
C'est un animal à sang-froid, Isabelle. Et moi, c'est un personnage, quand ça commence, oui, effectivement, il est professeur d'université en littérature et écrivain. Et quand la série démarre, il a un gros souci, c'est qu'il y a un élève qui l'accuse de racisme, voilà, sur une vidéo qui est devenue virale. Donc il se retrouve en prise avec cette chose-là. Et là-dessus arrive le homejacking. Ce personnage de Richard, ça dépend des périodes, parce que la série se déroule sur plusieurs périodes. Donc il y a des moments où il est très très ambitieux et il se confronte à un plafond de verre, et puis d'autres moments où ça va mieux et il vit mieux. Donc ce personnage, il vit plutôt en rapport à la relation qu'il a avec sa femme, voilà, qui évolue dans le temps, puisque la série se passe sur une vingtaine d'années.
Alors, c'est un couple très soudé, hein. C'est en tout cas ce qu'on sent, et dans l'adversité, évidemment, aussi. Hein. On sent un soutien sans faille de l'un vers l'autre. Et ça, tout au long.
Alors, tout au long, et puis, tu verras donc toute la série. Mais en effet, ce qui est sûr, c'est que dès le début, parce que je vais essayer de pas spoiler, dès le début, on voit qu'il y a quelque chose entre eux à la vie et à la mort. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est un duo.
Il y a un pacte qui a été scellé entre eux. Et qu'est-ce que ce homejacking va venir bousculer dans ce pacte?
Et révéler de leur secret, de leur incapacité, de leur doute, de leur histoire, ouais.
On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter certainement à la surface. Et que je vous dis, ces victimes, en apparence, victimes ne le sont pas peut-être tant que ça. Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est ça aussi, les recettes et ficelles aussi. Quand vous l'avez vu la première fois, tous les deux avec la musique derrière, la musique est très angoissante, très présente aussi, et nous embarque tout de suite dans l'atmosphère. Donc vous, quand vous tournez, évidemment, vous n'avez pas la musique derrière, mais quand vous l'avez vu la première fois avec la musique montée, comment vous avez réagi ?
Comme un spectateur, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais beau avoir déjà toute l'histoire en tête et l'avoir tournée, je redécouvrais tout au final, et la nouvelle écriture qu'il y avait, qui est celle du montage d'Hervé et des monteuses, voilà, qui ont travaillé sur le projet. Donc oui, j'étais happé Même moi qui joue, qui suis à l'écran, je suivais l'histoire. Donc ça, c'est plutôt bon signe, parce que je m'oubliais aussi. Enfin, j'oubliais ce qu'on avait fait pour suivre une histoire, quoi.
Oui, oui, pareil. J'ai été très angoissée en le voyant. Et puis, il y a vraiment, je trouve que ce qui réussit, c'est ce truc du masque trompeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on croit et comment parfois on croit des choses et la vérité est tout autre. Donc, c'est tout ce qui parcourt la série, c'est sur les apparences, souvent trompeuses. Voilà. Donc après, voilà, sur toute la série, il y a plusieurs thèmes qui se déplient. Mais en tout cas, tout ce qui est, ou du déterminisme social aussi et des apparences, de la filiation. C'est des très beaux thèmes, ça, qui vont parcourir tout le projet.
Alors on va découvrir dans ces deux premiers épisodes, hein, déjà le home checking sur le premier épisode, et sur le deuxième épisode, on découvrira l'histoire de Mohamed et de son épouse, ainsi que de ses enfants. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Il y aura plusieurs histoires entremêlées. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment de découvrir. C'est sur OCS Pulp et c'est à ne pas manquer. C'est dimanche. Dimanche soir, vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes. Moi, il y a une scène qui m'a... j'ai souffert pour vous, quand même, tous les deux. C'est la scène du home checking qui est quand même assez violente, à la base. Et puis, vous êtes restés attachés quand même les attaché un bon moment. Alors quand on vous voit sur une scène, c'est une chose, mais quand vous devez la refaire 3, 4, 5 fois, vous avez dû rester un moment au sol comme ça.
On est resté très longtemps au sol, très très longtemps au sol, et puis t'es obligé d'aller chercher dans des zones de jeu, de toi-même, des choses très très violentes. Oui, cette scène-là, elle a été très physique, c'était très physique, mais il y a pas mal de scènes physiques dans la série. Moi, si vous voulez, je pense que je n'ai jamais autant pris de tarte sur une série que dans celle-là, de coups sur la tête, et ça devenait, on en riait après au bout d'un moment. Mais c'est parce que comme chaque séquence est rejouée pour changer le point de vue, on était obligé de la jouer d'un autre angle. Donc, il fallait réitérer à chaque fois et refaire, et donc c'était ça qui était aussi amusant, quoi.
Ce qui était bien, c'est que les contre-champs pouvaient servir pour un autre épisode.
Oui, tout à fait, ça c'était génial par rapport au personnage. En fait, souvent, on se met dans une psychologie d'un personnage. On s'enfonce, mais là, comme on est vu par des gens différents, on joue le premier degré de chaque situation. Voilà. Et ça, c'était génial parce que, évidemment, Isabelle vue par quelqu'un d'autre n'est pas la même Isabelle que vue par Richard, etc. Donc ça, c'était super, ouais, à faire.
Vous avez un très très beau casting, en tout cas autour de vous, et c'est à ne pas manquer. Vos projets pour terminer.
Eh bien, moi, je vais être au théâtre là avec Joël Pommerat, la réunification des deux Corées, pendant 3 mois au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 14 juillet, à partir du 24 avril. Et puis après, je vais travailler avec Virginie Sauveur pour Disney dans les Disparus de la gare, une série. Voilà.
Prochaine création française, effectivement, Disney+.
Moi, je pars pour le tournage de la saison 2 de Cœur Noir, qui va se faire là en avril. Et puis après...
Ce sera une vidéo en premier, toujours ?
Oui, tout à fait. Et puis après, je suis en train de coécrire mon spectacle de théâtre qui sera à Paris l'année prochaine. Voilà.
Bon, des belles choses. Merci Marie, merci Yannick d'avoir été avec nous. Home Checking, c'est donc dimanche. Et c'est dimanche soir sur OCS Pulp, où il ne faut pas manquer les deux premiers épisodes. Et ça va durer pendant 3 semaines. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Jérémy Charvet, dans Plus belle la vie, va nous parler évidemment de son rôle. Il nous rejoint juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
La vie est un marathon et une course de fond. Ne fais pas l'erreur de te croire arrivé. Parfois les amitiés se font et se défont, mais il y a toujours une leçon à en tirer. Dans la ville, il y a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file quand tout va. Oui, dans la ville, il y a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file, là tout va, ça fait. Dis-toi que c'est la vie. Dis-toi que c'est la vie. J'ai des rêves dans la tête. Et toi, dis-moi ce qui est en tête. Oui, dis-moi, garde l'esprit à la fête. Chaque fois que la tristesse te guette. C'est ça. Dans la ville, y'a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file quand tout va.
Oui, dans la ville, y'a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file, là tout va, ça fait. Dis-toi que c'est la vie. J'ai tracé ce que je pensais être ma route. Qu'importe ce que la vie a prévu pour toi. Accepte-le, accepte-toi et dis-toi que c'est la 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 la. Dis-toi que c'est la vie.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacrés à Plus belle la vie, encore plus belle, hein, du lundi au vendredi à 13h45 sur TF1. Vous suivez les nouvelles aventures de nos Mistraliens et on va en mettre un à l'honneur, un nouveau qui joue le rôle d'Ulysse Kepler qui est avec nous. Bonjour Jérémy Charvet.
Bonjour et merci de l'invitation sur votre radio, ça me fait très plaisir.
Merci beaucoup d'être là avec nous Jérémy. Depuis maintenant quasiment 3 mois, les aventures des Mistraliens ont repris pour notre plus grand plaisir évidemment. Et tu viens d'intégrer cette nouvelle grande famille, en tout cas, que tu incarnes à travers ce rôle d'Ulysse Kepler. Quand on arrive comme ça sur une série avec des anciens, des nouveaux, une série qui a été quand même pendant 18 ans reine des programmes de France 3, aujourd'hui elle revient sur TF1 avec une nouvelle mouture, ça fait quoi ? Qu'est-ce qu'on se dit là à ce moment-là ?
Bah déjà, je me sens extrêmement chanceux, hein, parce que comme vous voulez dire, c'est une institution, on va dire, dans les séries françaises, Plus belle la vie. Qui n'a pas regardé Plus belle la vie dans sa vie, qui n'en a pas entendu parler, qui n'a pas été happé un jour par un sujet pris en main par cette série, etc. Donc du coup, je suis très fier, moi aussi, de me dire que on me fait
partie.
Déjà, j'en fais partie. Et puis moi aussi, je peux raconter des histoires à leur côté, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est aussi, il y a un truc très social. On prend des thèmes qu'on développe, qui permettent d'accompagner les gens. C'est-à-dire qu'on rentre dans les discussions des gens. On peut peut-être, en toute humilité, lancer des sujets de conversation, questionner. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant, quoi. Et puis, c'est surtout des acteurs emblématiques. C'est vrai qu'un gros coup de cœur, par exemple, pour Laurent Kérusoré, qui n'est pas que gentil derrière son bar, ou humainement parlant, il est très chouette. Léa François, ils ont beaucoup de cœur. C'est-à-dire que c'est un plaisir de venir à chaque fois sur les tournages. C'est-à-dire qu'ils ont cette réputation sur Plus belle d'être humains. C'est-à-dire que de ne pas avoir été happé par tout l'engouement qu'il y a eu autour d'eux depuis 18 ans. Et en fait, au début, j'étais extrêmement stressé. Et rapidement, ils m'ont dit « écoute, tu vas voir, ça va bien se passer ». Il y en a même certains qui ils n'ont pas eu besoin de me le dire parce que je l'ai senti. Et donc, du coup, me voilà.
On pourrait le définir, Ulysse. Dis-nous, à travers ta vision à toi, Jérémy.
Ulysse, c'est un justicier. C'est-à-dire qu'en fait, il est en quête de justice constante. C'est quelqu'un qui, il a ses convictions et il les défendra coûte que coûte. C'est-à-dire que c'est aussi un sensible caché. Et c'est-à-dire que, pour ça, il a aussi par rapport à son passé, par rapport à la relation qu'il a avec sa famille, sa mère, sa sœur. C'est-à-dire que.
On a découvert aussi qu'il est agoraphobe, sa sœur.
Exactement, qui jouait par Morgane Friou, qui est une superbe comédienne, et ma mère Agathe de la Boulay, qui est sont extraordinaires.
Que les fans des sagas étaient évidemment tout de suite reconnus et qu'on aime tellement, et ça nous fait très plaisir en tout cas de revoir Agathe.
Oui, donc du coup c'est quête de justice, c'est quelqu'un de très engagé, et je dirais aussi qu'il a une sensibilité qui va montrer petit à petit au travers du temps.
Oui, parce que si on a l'impression des fois qu'il est un peu rigide, ça a vraiment l'air d'être un personnage droit dans ses bottes, tout le temps.
En tout cas, il a une exigence. C'est un personnage qui a besoin d'exigences constantes. C'est-à-dire que quand on se construit, on va découvrir un peu son passé aussi au fur et à mesure des épisodes. Et c'est-à-dire que quand tu te construis avec des difficultés, en fait, Ulysse, lui, il s'est sauvé avec le travail. Et donc, du coup, cette rigueur lui permet en fait aujourd'hui d'en être là où il en est. Grâce aussi, par exemple, à ce que lui a apporté sa mère, Vanessa Kepler. Et donc, du coup, évidemment qu'on part de cette rigueur pour ensuite la mettre au profit d'autres choses. Et Vous le découvrirez dans une prochaine intrigue qui lui permettra de se révéler autre.
Alors, là, il est vrai que si Ulysse, jusque-là, avançait à pas masquer un peu, là, c'est vraiment la grosse intrigue du mois d'avril. Hein.
Ah oui, mais moi, hein, j'étais pas prêt. Et c'est en ça que plus belle la vie tape fort. C'est-à-dire que non, c'est inattendu. Il se retrouve dans une situation très particulière et très compliquée pour lui à vivre. Et donc du coup, c'est comme dans la vie en fait. C'est-à-dire que les amis se révèlent dans les mauvais moments. Et ben là, du coup, ça va être un personnage qui va permettre, en tout cas, de briser un peu ce bouclier qui lui permet d'exister à ce jour. Mais du coup, là, on va voir apparaître qu'est-ce qu'il y a un peu derrière et voilà.
On peut dire, Jérémy, que ceux qui ont raté la semaine dernière ont tout raté, quoi.
On est bien d'accord.
Ouais, oui, c'est clair. Donc maintenant, c'est TF1+, hein. Voilà.
Vu qu'on ne rate jamais rien dans la vie. Et donc, en plus, vous faites une petite soirée. C'est-à-dire qu'il y aura 5 épisodes à rattraper, voilà, avec des amis, des petites pizzas. Hein, voilà, et vous allez voir que à la suite les 5 épisodes, et puis vous allez être bien à fond dans l'intrigue.
Et puis si vous avez l'option premium, en plus c'est sans pub. Alors profitez-en. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, petit, on dit rien. Voilà, exactement. Jérémy, on a l'impression que Ulysse, malgré tout, dès le départ, il y a eu un petit coup de cœur pour Barbara. On l'a ressenti, nous spectateurs.
Bah, étant donné que Ulysse aime l'exigence, c'est-à-dire que il se retrouve au Mistral avec une cuisine raffinée. Il se dit, mais qui a fait cette cuisine? Et il s'avère que, en fait, Barbara est exigeante dans son travail. Donc, déjà, j'ai...
deux personnages qui se rejoignent bien là-dessus.
En tout cas, on a un point commun. C'est l'exigence dans ce qu'on aime faire et de ce qu'on fait. Après, quelle sera la suite de Ulysse Barbara? Est-ce qu'il y en aura une? Bah, ça, il faudra regarder pour le savoir.
Exactement. Alors à côté, Jérémy, on t'a découvert aussi en tant que chanteur quand même. Tu as participé à The Voice, des comédies musicales. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui t'a fait opérer aussi ce virage et cette envie peut-être de diversifier un peu tout ça?
C'est-à-dire que ça s'est fait assez naturellement. C'est que après The Voice, on m'a proposé de faire un personnage dans Scène de ménage avec Audrey Lamy et Lou Denis et Lyon. Et en fait, je suis allé sur le plateau et j'ai tellement aimé que là, je me suis dit « Oh !» Oh, oh.
J'ai jamais... tellement rigolé par la même occasion.
Ah ouais, c'est tellement drôle. Bah oui, en plus, je faisais un DJ totalement déjanté, j'organisais leur mariage. Et là, en fait, j'ai compris que c'était un vrai travail à part entière, qu'on pouvait pas aller sur un plateau, on pouvait pas s'improviser acteur. Donc, j'ai fait une école pendant 2 ans. J'ai obtenu un agent ensuite, donc j'ai fait une dizaine de séries, beaucoup sur TF1. J'avais le Bureau des légendes qui n'était pas sur TF1, mais, et du coup, en fait, ça m'a permis de continuer d'apprendre. Et en fait, il y a quelque chose de très addictif, dans le jeu, parce qu'en fait, quand on touche vraiment le jeu, on va à l'essence même un peu de ce qui nous anime dans la vie, par exemple, je sais pas, quand on est amoureux, quand on est avec ses amis, en fait, là où le tout de la vie prend un sens, et ben en fait, quand on joue, je trouve qu'on va aller toucher ces moments-là de vie qui sont vrais. Et donc, du coup, c'est un sentiment qui est très galvanisant et qui remplit de joie et qui fait beaucoup de bien. Donc, du coup, c'est un peu addictif. C'est comme la scène. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime autant être sur scène. C'est parce qu'en fait, d'un seul coup, t'as une adrénaline qui est complètement, qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait. Un peu dans l'amour, quand même.
Exactement. En tout cas, on n'hésite pas à aller regarder Plus belle la vie, encore plus belle. C'est à 13h45 du lundi au vendredi. Et si vous avez raté la semaine dernière, c'est ce qu'on disait, Ulysse va mettre les pieds dans le plat. Il va se retrouver dans des situations absolument improbables. Donc si vous avez raté la semaine dernière, on va pas vous gâcher le plaisir. Direction TF1+. Et puis vous allez pouvoir suivre la suite de ses aventures dès aujourd'hui.
Je vous attends.
Exactement. Merci Jérémy.
Merci à vous.
Vous dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment.
Des fois, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie d'accepter ce job.
Non, mais ça me stresse de le garder en fait.
Il s'est rien passé de particulier hier?
Non.
Oh, attends.
Vous n'avez pas indiqué votre situation matrimoniale.
T'as dit au type de la ZEU que t'avais un mec?
Je sais pas, il a pas écrit sur son front qu'il est gay.
C'est n'importe quoi tous les deux.
Vous vous rendez compte que ma fille est en danger de mort?
Non, elle a retrouvé.
Ouvrez cette porte !
Ça sert à rien de crier.
Inédit, Plus belle la vie, la semaine prochaine à 13h45 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Notre coup de cœur ciné sera consacré à la sortie du film Nous, les Le Roi, à ne pas manquer. Nous parlerons également de Knock qui débarque sur 13e rue. Et puis on parlera également des 3 mois. Et oui, déjà de Plus belle la vie. Nous recevons à cette occasion la productrice Clémentine Planchon pour faire le premier bilan. Et le couple emblématique de la série Les Nebous, Marie Réache et Jérôme Bertin.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.